Vous écoutez RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et tout de suite l'information africaine avec vous, Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, la fin de la tournée diplomatique dans la région des Grands Lacs du vice-premier ministre belge des Affaires étrangères. Elle s'est achevée en RDC sur une rencontre avec la première ministre et le président. Au menu des discussions, la politique, l'économie, mais aussi la crise entre la RDC et le Rwanda. Au Soudan, l'ambassadeur de Chine convoqué pour s'expliquer sur l'utilisation par les forces de soutien rapide de drones de fabrication chinoise. Les précisions à suivre. Dans ce journal également, 620 mètres, 92 milliards de francs CFA plus tard, le pont qui relie Bongor au Tchad à Yagoua au Cameroun, enfin inauguré après 5 ans de travaux. Nous reviendrons également sur ces deux saisies records de drogue, ce mois-ci à l'aéroport international de Douala, 100 kilos au total pour une valeur estimée à plus de 5 millions de dollars américains. Et puis scepticisme ou réel succès, 5 jours après l'organisation du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien à Madagascar. Quel bilan tirer de cet événement destiné à débattre des grands enjeux de la souveraineté alimentaire? Éléments de réponse dans cette édition. Clap de fin pour la tournée diplomatique du vice-premier ministre belge des Affaires étrangères dans la région des Grands Lacs, Maxime Prévost, qui était en RDC hier, dernière étape après être passé en Ouganda et au Burundi. Il a rencontré la première ministre Judith Suminwa et le président Félix Tshisekedi. Au menu des discussions, la politique, l'économie, avec un appel lancé pour un meilleur climat dans les affaires, pour attirer davantage d'investisseurs belges, mais aussi la crise entre la RDC et le Rwanda. Les précisions à Kinshasa de Pascal Moulégois.
À propos de la guerre dans l'Est, Maxime Prévost avait déjà salué les initiatives du Qatar et des États-Unis qui ont permis d'arracher un accord de principe entre Kinshasa et les rebelles du M23 d'un côté et Kinshasa et Kigali de l'autre. Le ministre belge a renouvelé son appel à la prudence.
Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nid de poule sur celui-ci et que la destination finale sera bien atteinte.
Bruxelles, affirme Maxime Prévost, ne veut pas vampiriser les ressources congolaises, alors que d'autres acteurs internationaux ont, selon les ministres, une approche plus transactionnelle de leur diplomatie. Autre message adressé au président Tshisekedi, n'est pas négliger les initiatives internes des résolutions de crise.
Nous sommes aussi conscients qu'il est important que des signaux soient donnés et qu'un dialogue national soit nourri, qui doit être aussi un adjuvant de la résolution des conflits et de la pacification. J'ai donc plaidé pour qu'il puisse y avoir une attention réservée, une écoute à l'initiative des évêques en maximalisant les différentes forces politiques en présence autour de la table.
À Doha, justement, une délégation composée d'évêques catholiques et des pasteurs protestants a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie qatarienne. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Et les affrontements se poursuivent en plusieurs endroits de la province du Sud Kivu. D'intenses combats entre l'armée congolaise et ses alliés, miliciens et armée burundaise d'un côté, et le M23 appuyé par le Rwanda de l'autre. Selon des sources locales et sécuritaires interrogées par l'agence France Presse, ces combats se déroulent depuis ce week-end dans le territoire de Calais, au nord de Bukavu. Ils touchent aussi la localité de Kaziba, située au sud de la capitale provinciale. De nombreux habitants ont fui depuis samedi. Le général Al-Burhan en visite officielle en Égypte. Hier, il a été reçu au Caire par le président Abdel Fattah al-Sissi, qui lui a proposé de l'aide pour reconstruire les régions sous contrôle de l'armée régulière. Une première depuis la défaite infligée aux paramilitaires des FSR en début d'année à Khartoum, en Soudan. Les forces de soutien rapide qui utiliseraient des drones de fabrication chinoise dans la guerre qui les oppose à l'armée depuis 2 ans. Conséquence, l'ambassadeur chinois au Soudan a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères pour lui donner des explications. Mais Pékin n'a rien à voir avec la présence de ces drones, a-t-il déclaré. Il affirme par ailleurs que la Chine soutient la stabilité et l'unité du Soudan Houda Ibrahim.
Ces drones FH-95 mènent des frappes d'une grande précision et effectuent des missions de renseignement. Et surtout, ils échappent à la défense antiaérienne, ce qui explique la réussite des récentes attaques. Selon plusieurs spécialistes, ces drones ont été vendus par la Chine aux Émirats Arabes Unis, un pays dont l'ONU pointe l'implication dans le conflit aux côtés des FSR. D'après des images satellites révélées par l'université américaine de Yale, ces drones sont lancés depuis l'aéroport port d'Amjaras au Tchad et de celui de Niala au Soudan. Ils attaquent El-Fasher, les bases et les positions militaires, mais aussi et surtout les infrastructures loin du front au nord du pays. Ainsi, la semaine dernière, la raffinerie de pétrole Jili à Khartoum-Bahri a été visée, tout comme les centrales électriques de Atbara, Dongola, Marawi et Ad-Damer. Ces drones ont également ciblé la plus grande base aérienne de l'armée à Wadi Sayed Napré de Khartoum. Le conseiller militaire de FSR a affirmé la semaine dernière que la guerre est entrée dans une nouvelle phase. L'armée assure qu'elle va mettre fin à ces attaques.
Ouda Ibrahim. Il était attendu de pied ferme le pont de l'amitié, de l'espoir et de l'unité Tchad-Cameroun qui relie Bangor au Tchad et Yagoua au Cameroun sur le fleuve Logon est officiellement en service. Après 5 ans de travaux, dont 2 de retard, les chefs de gouvernement des deux pays l'ont inauguré hier. L'objectif, c'est de faciliter le commerce et les déplacements des riverains. François Mazet.
Le projet daté de l'époque coloniale, le voilà finalement réalisé. Les premiers ministres Joseph Dion Nguté pour le Cameroun et Alain Mayalina pour le Tchad ont officiellement coupé le cordon en présence du président de la Banque africaine de développement et de l'ambassadeur de l'Union européenne, les principaux bailleurs de ce projet à 92 milliards de francs CFA. D'une longueur de 620 mètres, le pont viendra se substituer au trafic des pirogues et des bacs, pas toujours en très bon état et fréquemment visé par les hippopotames, occasionnant régulièrement des accidents et des décès. Écoutez la satisfaction d'Amadou Daïrou, le lamido de Yagoua.
Là, tout le long du Logon, nous sommes des frères. On dit souvent quand la route passe, c'est le développement qui suit. Ça nous facilite la tâche parce que quand il y a les eaux, les saisons pluvieuses, c'est pas praticable. Le change sera tellement fluide, sera rapide, sera sans inquiétude.
Le chef traditionnel relève que cette route offre un nouveau chemin sécurisé pour les marchandises qui transitent par les ports camerounais vers le Tchad. Les riverains espèrent une accélération des échanges commerciaux, notamment agricoles. Le pont est gratuit. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour éviter toute tracasserie policière et douanière.
Explication de François Mazet. Au Nigeria, au moins 26 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'un camion sur une mine artisanale. Attaque qui n'a pas été revendiquée, mais qui s'est déroulée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, bastion de Boko Haram, qui connaît ces derniers temps une recrudescence des attaques djihadistes, comme samedi, où 14 agriculteurs ont été tués dans le district de Gwoza, dans l'état de Borno. Au Cameroun, les douanes ont effectué pas une, mais 2 saisies records de drogue ce mois-ci. Cela s'est passé à l'aéroport international de Douala. 70 kilos dans un premier temps de stupéfiants dans un vol en provenance d'Afrique du Sud, puis 30 kilos une semaine plus tard dans un autre avion, cette fois-ci à destination de l'Inde. Les explications pour RFI d'Amélie Tullet.
La première cargaison de 70 kilos était dissimulée dans des compresseurs d'air. Cocaïne, méthamphétamine, éphédrine, valeur estimée 3 millions de dollars pour une consommation sur le sol camerounais. Le capitaine Gabriel Ngafor explique que les services douaniers, alertés par les autorités françaises après une saisie similaire à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ont surveillé de près les livraisons de pompes à air en provenance d'Afrique du Sud.
Nous avons effectué la surveillance en attendant voir qui viendra chercher ces colis. Quelques jours plus tard, il y a un déclarant qui est venu effectuer des formalités. Nous avons donc mis la main sur ce déclarant, un Camerounais de nationalité, et nous avons effectué la saisie et le dossier a été transféré au procureur de la République pour la suite des enquêtes.
Deuxième saisie quelques jours plus tard, sans lien avec la première, toujours à l'aéroport de Douala, 30 kilos cette fois uniquement de cocaïne, cachée au milieu d'épices dans le bagage d'un autre Camerounais, enregistré à destination de New Delhi en passant par Addis Abeba.
Pour nous, c'est des saisies très importantes. Ça appelle les uns et les autres à se mettre en question pour savoir exactement ce qui se passe. Nous avons renforcé les contrôles afin de démanteler ces réseaux.
Dès la première saisie, mi-avril, le ministre camerounais des Finances a réagi, réaffirmant l'engagement des douanes à travailler avec les forces de sécurité et les partenaires contre ce trafic transnational de stupéfiants.
Amélie Tullet. 5 jours après l'organisation du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien, quel bilan en tirer ? L'événement organisé par et à Madagascar a permis de débattre sur les enjeux de la souveraineté alimentaire régionale en présence des chefs d'État des 5 pays membres. Et si certains y voient de belles avancées, Sarah Tetto, d'autres restent encore sceptiques.
Un sommet historique. C'est en ces termes que la ministre des Affaires étrangères malgache, Rafa-Rafavitaf Kerasat, a qualifié le 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien lors de son bilan face à la presse.
Nous avons su replacer au cœur des préoccupations des États membres de la COI la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire dans la région. Madagascar se positionne comme un pays qui veut apporter des solutions.
Une fois encore, la grande île a affiché sa ferme volonté de redevenir le grenier de l'océan Indien. Dans cette optique, les 5 États se sont donc engagés à investir massivement dans la transformation des systèmes agricoles et dans la nutrition. Pas suffisant, estime Mathieu Joyeux, responsable de la nutrition à l'UNICEF Madagascar.
Clairement, au vu de l'urgence nutritionnelle dans le Grand Sud actuellement, on ne peut pas en rester là au stade des résolutions. Et donc, il nous faut vraiment maintenant des actions très concrètes pour répondre justement aux enjeux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans Madagascar. Et ça doit aller au-delà des ambitions certes louables d'augmentation de la production rizicole, par exemple. Et donc, pas uniquement tout miser sur la production alimentaire pour de l'export régional ou même international. Pour rappel, on a au sein de la COI, une structure en charge de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle a été créée il y a 10 ans. Il faut maintenant qu'on passe vraiment à l'action avec l'appui de cette structure.
Dans le grand sud de l'île, les voyants sont effectivement dans le rouge. Le nombre d'enfants atteints de la malnutrition aiguë sévère a quasiment doublé ce mois-ci par rapport à avril 2024. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Et puis en Tunisie, après la condamnation d'opposants à de lourdes peines de prison pour complot contre la sûreté de l'État, ce qu'il nie en dénonçant un dossier vide et politique, la condamnation dénoncée par la France, l'Allemagne ou encore les Nations Unies, le président tunisien Kais Saied dénonce ce matin des ingérences flagrantes dans les affaires intérieures de son pays, des déclarations qu'il juge inacceptables. Il est 9h42 à Paris, 7h42 en temps universel.